15h05, bonjour tout le monde, merci d'être là. Ben écoutez, c'est le sujet du jour, hein? C'est cette propagation du coronavirus et la réponse des autorités publiques au Québec comme ailleurs pour faire face, pour se préparer. C'est un peu comme se préparer à une sorte de catastrophe naturelle, c'est comme s'il y a un ouragan qui s'en venait. Peut-être qu'il fait beau maintenant, mais on sait que ça s'en vient. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ça fasse le moins de dommages possible. Donc, on est là et on va toujours dans le calme, toujours en prenant notre gaz égal, comme j'aime bien dire. On va parler du coronavirus, une bonne partie de l'émission. On a même un segment un peu plus drôle sur le coronavirus quand même, avec l'humoriste François Bellefeuille. Je ne vous vends pas le punch, mais si vous êtes là autour de 17h05, ça vaut la peine d'entendre ce que François aura à dire. Et vous dire qu'autour de la table, il n'y a que Philippe Quentin et moi, notre amie Catherine Beauchamp, qui assure la chronique Showbiz, est retournée chez elle. Ben, elle avait des symptômes. Est-ce que ce sont des symptômes d'un simple rhume, d'un bête rhume? Peut-être. Mais ni Catherine ni l'équipe n'ont voulu prendre de chance. Donc voilà, Catherine fait le nécessaire et va se faire tester. Si ça adonne, on va lui parler, prendre de ses nouvelles. Mais je pense que c'est important pour quiconque, que ce soit ici dans une émission de radio ou ailleurs, si vous avez des symptômes de rhume, de nez qui coule, etc., ben c'est peut-être le temps de rester à la maison et de vous faire tester. Vaut mieux prévenir que guérir. Et là-dessus, j'accueille Philippe Quentin.
Salut Patrick. Si c'est bon pour le premier ministre du Canada, c'est bon pour tout le monde.
C'est bon
parce que lui-même,
monde.
Aujourd'hui, a annoncé qu'il se plaçait en isolement volontaire en raison des symptômes de sa femme. Et puis, je pense que c'est la mesure à prendre. Le télétravail, il va travailler à la maison.
Voilà. Fait que, bon, c'est surtout dans une émission de radio comme nous, ça peut se faire au téléphone. Et si Catherine doit faire sa chronique au téléphone, ben elle fera sa chronique au téléphone. Et Philippe, dans le sport... Ça a été, écoute, hier, entre 8h et 22h, ça a été frénétique à tout point de vue.
Oui, tout à fait. Puis ça continue aujourd'hui. On parle d'un 24 heures historique dans l'histoire du sport contemporain. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Tu sais, quand on pense, Patrick, là, quand on met ça dans des perspectives historiques, quand on pense que les saisons sportives de hockey, de baseball n'ont même pas été suspendues pendant les deux conflits mondiaux, la guerre de 1914, la guerre de 39-45. Et là, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où tous les sports, ou à peu près, ont annoncé la suspension de leurs activités. Ça a commencé, comme tu le mentionnais hier, avec l'Association nationale de basketball. Juste avant le début d'un match entre le Jazz de Utah et Sacramento, là, il y a eu un moment de flottement. Le match ne commençait pas. La mascotte était sur le terrain. Les spectateurs se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Finalement, on apprend qu'un joueur du Jazz de Utah, c'est un Français du nom de Rudy Gobert, venait de subir un test positif. Alors, on a décidé de suspendre la rencontre. Il y a une autre rencontre aussi qui a été annulée parce qu'un arbitre qui avait travaillé dans un match de l'équipe de Rudy Gobert au cours des jours précédents était d'office pour cette rencontre-là. Alors, deux rencontres ont été annulées. Et puis, tout de suite, dans la soirée, l'Association nationale de basketball a annoncé qu'elle suspendait ses activités.
Et Rudy Gobert, je ne sais pas si les gens ont pu voir cette séquence-là. Quelques jours avant, dans un point de presse, il était derrière la table, les journalistes avaient déposé leur micro. Monsieur Gobert s'est mis à déconner, comme on dit, à Paris. Il a touché tous les micros, comme pour se moquer du fait qu'il y avait le coronavirus. Ouais, exactement. Allez voir la séquence. Il a l'air d'un imbécile aujourd'hui.
Ouais. Et là, il y a un de ses coéquipiers aussi qui a testé positif, donc deux membres de l'équipe. Alors évidemment, sans surprise, la Ligue nationale de hockey a emboîté le pas. Il faut réaliser, Patrick, que plusieurs amphithéâtres sont partagés par deux équipes dans chaque ville. Oui. Une équipe de la NBA, une équipe de la Ligue nationale de hockey. Alors on va faire le point. Le baseball aussi sur le point d'annuler son camp, de suspendre son camp d'entraînement.
Très bien, parfait. Des jours historiques en sport. Et comme il n'y aura plus de sport pour les prochains jours, je l'annonce. Philippe Quentin va être autour de la table chaque jour et Philippe va devenir reporter au coronavirus. Il va faire la chronique de ce qui se passe là-dessus, ici au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Parce qu'à la base, Philippe Quentin, tu es un journaliste et tu t'adonnes à beaucoup aimer le sport, mais tu peux aussi faire autre chose. Parfait. Donc là-dessus, autour de la table, pour un tour de table de début d'émission un peu spécial, Louis Lacroix, notre correspondant à Québec, est là. Pierre-Yves McSween pour l'impact sur l'économie est aussi là. Et pour faire le point sur les matchs annulés dans la LNH, Martin McGuire est là. Salut, messieurs.
Salut.
On commence avec
Bonjour à vous.
On commence avec Louis. Louis, il y a eu un point de presse aujourd'hui de François Legault,
oui,
de Marguerite Blais, de Daniel Mécan et de Horacio Arruda. Qu'est-ce qui s'est dit?
Bon, en fait, c'est les mesures du gouvernement pour essayer de limiter la propagation du coronavirus. D'abord, on a confirmé un 13e cas au Québec. Il faut mentionner que les 13 cas, ce sont des gens qui reviennent de l'extérieur du pays. C'est-à-dire, c'est des voyageurs qui sont arrivés au Québec et qui avaient contracté le coronavirus à l'extérieur. En ce moment, au Québec, il n'y a pas de cas de transmission interne, c'est-à-dire de personne à personne au Québec. En tout cas, ça n'a pas été répertorié. Il y en a peut-être, mais qui ne sont pas connus. Alors, pour faire face à tout ça, on a annoncé une série de mesures. D'abord, la plus spectaculaire, c'est bien sûr l'annulation de tous les événements intérieurs de plus de 250 personnes. Donc, autant les événements sportifs, les événements culturels, il y a des salons, par exemple, qui avaient été annoncés, qui étaient même sur le point d'ouvrir, le Salon de l'habitation à Montréal, etc. On a décidé d'annuler les activités. Il faut mentionner que ça ne touche pas les centres commerciaux, ça ne touche pas non plus les casinos. Alors, parce qu'on explique que bon, il y a une façon, là, il y a moins de proximité, si on veut, des gens. Il y a une façon peut-être de s'éloigner de certaines personnes qui pourraient avoir des symptômes du coronavirus. Alors, on a décidé de ne pas toucher, pour l'instant en tout cas, ces endroits publics-là. Ce que ça implique, c'est que dans les écoles, les universités, les cégeps, les cafétérias, par exemple, où il pourrait y avoir une capacité supérieure à 250 personnes, ça va être limité à 250 personnes. Les amphithéâtres des écoles, ce sera la même chose. Le gouvernement annonce également que les fonctionnaires de l'État qui sont allés à l'extérieur du pays, soit pour le travail, soit pour leur loisir, lorsqu'ils vont revenir au pays, devront obligatoirement se mettre en isolation. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas rentrer au travail, vont être gardés, même s'ils n'ont pas de symptômes, en isolation pendant 14 jours. Et on demande la même chose aussi pour les employés du secteur privé. Alors, François Legault, ce matin, évidemment, peut l'obliger pour les fonctionnaires, ne peut pas l'obliger, en tout cas pas pour l'instant, pour les entreprises privées. Et on prévoit qu'il y aura un programme pour aider les entreprises privées parce que ces gens-là, bien sûr, vont avoir besoin d'être payés quand même. Mmh. Écoutons François Legault.
Le signal qui est important d'envoyer, c'est que dans le réseau public, le gouvernement va payer pour les personnes isolées. Maintenant, au cours des prochains jours, on va annoncer des mesures pour le secteur privé parce que faut que ça soit la même chose dans le secteur privé.
Alors, de quelle forme ça prendra, on ne le sait pas pour l'instant. Dans les CHSLD, évidemment, on demande aux gens qui arrivent de voyage ou qui ont des symptômes de ne pas s'y rendre. D'ailleurs, Marguerite Blais a annoncé aujourd'hui qu'à l'entrée de tous les CHSLD, il y aura désormais des gens qui vont accueillir, si on veut, les personnes qui entrent pour venir visiter leur famille, leurs grands-parents, etc. Et on va leur poser des questions, à savoir s'ils ont voyagé, s'ils ont des symptômes, tout ça, pour les renseigner, les obliger à se laver les mains, bien sûr, pour ne pas transmettre le coronavirus. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de contamination à l'intérieur, mais s'il devait y en avoir, là, on passerait à un stade supérieure, si on veut, de mesures pour contrer la propagation. Ça pourrait dire des fermetures d'écoles, ça pourrait dire la fermeture également de certains endroits publics. Et on a posé la question à Horacio Arruda, le directeur de la santé publique, jusqu'où on pourrait aller. Je te fais entendre les réponses.
Dans les scénarios que vous étudiez en ce moment, y a-t-il le scénario où l'île de Montréal est mise en quarantaine?
Écoutez, je vais vous le dire, tout est possible en termes de scénario. On va prendre la décision qui est logique, qui est objective par rapport à la situation.
Alors, ça pourrait aller jusque-là. Ça pourrait vouloir dire que des endroits, par exemple, des villes, des secteurs de villes où on note davantage de propagation du coronavirus. Parce qu'on dit, pour l'instant, il n'y a pas de transmission à l'interne, mais on sait qu'il va y en avoir éventuellement. C'est inévitable, ça arrive partout. Alors, on est prêt à prendre ces mesures-là beaucoup plus sévères. Et on sait également que ça va durer plusieurs mois. Il va y avoir une pause à ce qu'on croit, là, si on suit normalement la saison de grippale.
Louis, oui. Excuse-moi de t'interrompre une seconde. Ça vient de tomber, la France qui ferme les écoles et les garderies.
Bon, eux, évidemment, sont dans une situation beaucoup plus sérieuse que nous, en tout cas à l'heure actuelle. Et ce que disait justement Horacio Arruda tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas en arriver là. Et c'est pour ça qu'on prend des mesures assez sévères quand même, assez contraignantes dès maintenant pour essayer d'éviter de se retrouver dans un scénario plus important. Mais Horacio Arruda a dit aujourd'hui également que si on devait enlever des droits personnel, des droits de la personne là, à certains citoyens parce que la communauté, la sécurité des gens le commande là, de façon communautaire, on pourrait le faire parce que le gouvernement a ce pouvoir-là. Alors, ça pourrait être contraindre des gens, par exemple, à subir des traitements, à subir des tests de détection du coronavirus, etc. On pourrait se rendre jusque-là. Alors, évidemment, là, en ce moment, la grande question, c'est la capacité de faire ces fameux tests de détection du coronavirus. Hier, on disait qu'on était limité à 200 tests par jour. Ça prend quand même un certain temps avant d'avoir le résultat. On parle de 24-48 heures. Madame McCann a dit aujourd'hui qu'on est en train d'essayer d'aller plus rapidement que ça. On pourrait même, à terme, là, si jamais il devait y avoir une éclosion plus importante, faire des tests à la maison, aller faire des prélèvements à la maison pour justement essayer d'avoir une détection qui soit optimale.
Très bien, merci Louis. On se reparle. Parfait. Pierre-Yves McSween, Pierre-Yves, oui. T'es là? Oui, parfait. Hey, écoute, tout ça, là, toutes ces fermetures-là, ces interdictions de rassemblement, c'est évident que ça a un impact sur l'économie. Qu'est-ce qui te frappe sur, disons, les impacts les plus manifestes?
Ben, au niveau de la bourse, évidemment, 12 % sur le TSX aujourd'hui, Patrick, c'est en plus ce qu'on avait. Donc, 30 % si vous aviez depuis le début. Là. Donc, si vous aviez 10 000 $ d'épargne, ben, il vous en reste probablement 7 000 à peu près présentement. Mais au-delà de ça, ce qu'on parlait avec Louis, c'est intéressant. Imagine que tu fermes les salles de 250 et plus. Là. Tous les humoristes de la relève à 180 spectateurs. Est-ce que le facteur de propagation est inférieur? La réponse est non. Donc, économiquement, tous les petits regroupements vont quand même générer de la peur. Alors, tu as des salles qui vont fermer. Dans le moment où on se parle, les salles de spectacle, qu'est-ce qu'ils font, tu penses, Patrick? Ils sont en train d'enlever de l'argent du monde. Ils sont obligés de fermer. Donc, t'enlèves des emplois, ils ne dépensent pas, restent à la maison. Donc, les conséquences sont énormes. Et là, il y a des gens qui commencent à parler d'investisseurs, puis ils leur disent, si vous êtes investisseur, vous investissez où? Ben là, ils disent, ben, quand les gens vont rester à la maison, ça va augmenter le monde virtuel. Donc, peut-être Netflix est une bonne avenue, peut-être Apple. Donc, tout ce qui est ordinateur, réseaux sociaux virtuels est comme favorisé par la crise, parce que les gens se disent, ça va être un mode de vie refuge. Il y a les valeurs refuge, mais il y a aussi le mode de vie refuge. Alors ça, c'est des questions. Alors imagine, avec ça, la Fed intervient, on injecte de l'argent, mais on se rend compte que l'impact sur la bourse n'est pas là parce que on ne sait pas quelles sont les conséquences du virus et donc l'étendue. Mais par prévention, on déclenche des problèmes économiques. Parce qu'en faisant beaucoup de prévention, on vient en amont, couper l'économie. D'un coup, pof, on arrête des activités. Donc, automatiquement, il y aura des licenciements. Qu'est-ce qui va arriver, Patrick, avec les paiements hypothécaires?
Bien, en Italie, ça a été suspendu.
Oui, puis on a contribué. Mais comment ça va coûter? Et la question que le gouvernement ne répond pas, où va-t-il prendre l'argent? Parce que là, il y a quelques jours, tu déposes ton budget, tu dépenses tes enveloppes, tu alloues tes affaires. Là, il va falloir qu'ils disent, bon, les milliards, on va les prendre où? Dans la poche de qui? Est-ce que ça va être au niveau des projets artistiques qu'on n'ira pas? Est-ce que ça va être des infrastructures? Donc, où on va prendre l'argent? Et la croissance économique annoncée, on s'entend, peu probable. Donc, où va aller l'argent? D'où elle va venir? Il va venir? On verra bien, Patrick.
Parfait, merci Pierre-Yves, on se reparle plus tard. LNH est comme, dans la Ligue nationale de hockey, comme dans l'Association nationale de basketball, la MLS au soccer, ben, on a suspendu les activités. C'est historique pour la LNH. Salut Martin McGuire.
Bonjour Patrick.
Donc, on s'y attendait quand même là, depuis l'annonce de la NBA hier.
Effectivement, parce que comme Philippe le disait un petit peu plus tôt, plusieurs propriétaires ont des équipes dans la NBA et dans la Ligue nationale. C'était donc presque automatique. Et très tôt ce matin, on avait eu indication, parce qu'avant 10 heures, je m'étais rendu ici au centre d'entraînement du Canadien à Brossard, et quand je suis arrivé, déjà les joueurs quittaient. La Ligue nationale avait demandé assez tôt ce matin à ce que les équipes renvoient leurs joueurs à la maison. Les entraînements matinaux de tous les matchs prévus ce soir à l'horaire, il y en avait 10, avaient été annulés. Et également les entraînements des autres équipes qui ne jouaient pas. On avait eu ordre de renvoyer les joueurs à la maison. À ce moment-là, avant que la Ligue nationale officialise sa décision, on avait commencé également également le rapatriement des arbitres, parce qu'il y avait des arbitres qui étaient déjà en place pour des matchs dans des villes, comme c'est le cas ici à Montréal. Alors, on avait commencé à prendre les mesures pour retourner les arbitres chez eux, et il va sans dire les clubs visiteurs, même chose. Dans le cas des Penguins de Pittsburgh, on a vu très rapidement à Columbus qu'on a pris les mesures pour les ramener à Pittsburgh, et même chose ici pour les Sabres qui étaient à Montréal depuis hier soir. Tout ça, ça s'est fait avant l'heure du midi. Alors, on savait déjà quelle serait la décision de la Ligue nationale. 189 matchs, c'est ce qui reste à l'horaire d'ici la fin de la saison. Pour l'instant, c'est suspendu. Les 10 matchs de ce soir, il va s'en dire. Mais ce qu'il faut mentionner, Patrick, c'est que dans l'espace-temps, la Ligue nationale n'a pas mis de date. On a dit qu'on va se tenir au courant auprès des autorités de santé publique dans chacun des marchés. Et je pense que la Ligue nationale veut quand même se donner un peu de temps pour étudier tout ça et de prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'on n'a pas mis d'espace-temps. Mais j'ai obtenu certaines informations confirmées là, par des sources à l'effet que on a demandé aux équipes de la Ligue nationale de garantir des dates d'utilisation des arénas jusqu'à la fin du mois d'avril et pour ceux qui étaient presque réglés pour les séries jusqu'au mois de juillet. Alors, actuellement, la Ligue nationale a ouvert une parenthèse pour se donner toute la marge nécessaire si les choses devaient s'améliorer pour reprendre leurs activités. On commence déjà à travailler ça. Il n'y aura aucun entraînement. Les joueurs vont rester à la maison, le plus souvent possible à la maison, pour ne pas être exposés au coronavirus. C'est pour ça qu'on n'amène pas les joueurs pour les entraînements d'ici à ce que ça reprenne.
Très bien, merci Martin. On va se reparler au cours de l'émission. Donc, Philippe, ça vient de rentrer. Le président Macron lui-même en France a annoncé que dès lundi prochain, les garderies et les écoles seront fermées.
Oui, tout à fait. C'est confirmé par Le Monde qui en fait sa manchette sur son site web. Le président français Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ou s'adresse actuellement aux Français à la télévision nationale et il annonce ces mesures-là qui, évidemment, constituent un changement de cap pour le gouvernement français. Patrick, qui encore, il y a quoi, de 24 à 48 heures, disait que la fermeture des écoles n'était pas une option pour l'instant. Donc, on voit là, comment le changement a été rapide et assez brutal.
Donc, le président Macron qui a dit, je le cite, là, cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. 15h22.